Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez savoir de cette soirée du mercredi 10 novembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir avec des soupçons de guet-apens.
Une étrange affaire dans le milieu du football parisien. L'équipe féminine du PSG impliquée dans une enquête pour violence volontaire en réunion avec armes et préméditation. Deux gardes à vue ce soir, dont une joueuse du PSG. On vous explique tout dans un instant. Nous irons ensuite au palais de justice de Paris pour le procès des attentats du 13 novembre. Cité comme témoin aujourd'hui, l'ancien président François Hollande, compte rendu d'audience à suivre. À suivre également la lanceuse d'alerte américaine Frances Haugen qui dénonce les pratiques de son ancien employeur Facebook devant les députés français. 12 millions de personnes en précarité énergétique, journée spéciale sur Inter aujourd'hui. Dans ce journal, l'inquiétude des bailleurs HLM pour rénover leur logement. La crise migratoire en Pologne, la Lituanie aussi est touchée par un afflux massif de migrants. Et pour finir, les navigateurs de la Transat Jacques Vabre qui se régale avec des plats de grands chefs cuistots.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir notre invité c'est Justin Weiss, fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix qui commence demain. Mais au fait, à quoi ça sert? Un forum sur la paix, sujet théoriquement assez consensuel, eh bien on lui posera la question et puis quelques autres aussi. 19h20, c'est le téléphone sonne et ce soir nous parlons nous aussi de la précarité énergétique. Cela touche 12 millions de personnes qui ne se chauffent pas ou peu parce que c'est trop cher, qui ont des factures énormes parce que leurs logements sont des passoires. La Fondation Abbé Pierre lance aujourd'hui cette première journée sur la précarité énergétique. Le nouveau mal logement, vos commentaires et vos questions, c'est au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le PSG est donc plongé dans une sombre affaire d'agression.
On parle là, Fabienne, de la section féminine de l'équipe parisienne qui s'est illustrée hier soir de la plus belle des manières sur le terrain face au Real Madrid 4-0, mais qui, depuis aujourd'hui, est au cœur d'une enquête de la police judiciaire de Versailles. Deux joueuses sont concernées par cette histoire. D'un côté, Keira Amraoui, violemment agressée la semaine dernière, et de l'autre, sa rivale au poste de milieu de terrain, Aminata Diallo, qui, elle, a été mise en garde à vue. Bonsoir Thomas Coignac.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
À l'origine de cette affaire, des soupçons de guet-apens la semaine dernière en région parisienne.
Oui, parce que c'est elle, Aminata Diallo, qui était au volant jeudi avec sa coéquipière Keira Amraoui dans la voiture lorsque plusieurs individus cagoulés déboulent. L'un d'eux immobilise Aminata Diallo dans la voiture tandis qu'un autre sort Keira Amraoui du véhicule et lui donne des coups de barre de fer aux jambes. Elle est blessée et transportée à l'hôpital de Poissy. Jusqu'à hier soir, cela ressemblait à une agression dont les victimes étaient les deux joueuses. Diallo a même joué hier la quasi-totalité du match contre le Real Madrid. Mais ce matin, elle a donc été interpellée à son domicile. Et il y a plusieurs éléments troublants. Le fait que Diallo n'ait pas reçu de coups, que rien n'ait été volé dans la voiture, que Amraoui ait été frappé précisément aux jambes. Les enquêteurs soupçonnent Aminata Diallo d'avoir conduit sa coéquipière et concurrente du milieu de terrain dans un guet-apens, de l'avoir menée vers cette agression. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion avec armes et préméditation. Et une autre personne a été placée en garde à vue. Aujourd'hui.
Merci Thomas Coignac du service des sports de Radio France. C'est un témoin exceptionnel qui a déposé aujourd'hui à la barre du procès des attentats du 13 novembre. François Hollande était convoqué aujourd'hui par la cour d'assises spéciale. L'ancien président français était au pouvoir au moment des attentats, présent au Stade de France, présent ensuite au Bataclan et dont le nom avait été cité par les terroristes même pendant les attaques au Bataclan. C'est lui qui vous a mené à ce massacre, disait-il aux victimes. Sous-entendu, c'est sa politique contre l'État islamique en Syrie. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
L'ancien chef de l'État est d'abord revenu sur la soirée du 13 novembre.
Une soirée qui a débuté pour lui au Stade de France. Je n'avais pas prévu de m'y rendre, explique François Hollande à la barre. C'est quand j'ai su que le ministre des Affaires étrangères allemand y était que j'ai pris cette décision. Une soirée qui bascule dès la deuxième explosion. Le président de la République se retrouve alors au PC de sécurité, puis à l'Élysée. En quelques heures, il déclare l'état d'urgence, donne une allocution aux Français. Et je dis que c'est une horreur. Parce que c'est une horreur qu'il va approcher d'un peu plus près encore. Lorsqu'il se rend au Bataclan, je vois des personnes qui sortent, le regard hagard, agrippées les unes aux autres. Je garde ces images gravées dans ma mémoire. Mais l'ancien président de la République est aussi interrogé sur sa décision d'intervenir en Syrie, car c'est ainsi que les terroristes du Bataclan, dont les propos ont été captés par le dictaphone d'un spectateur, ont justifié leur action. Une bande audio sur laquelle on entend, entrecoupée de coups de feu, quatre fois votre nom, rappelle l'avocat de partie civile Maître Delahas. Ces phrases m'ont forcément conduit à réfléchir sur ma propre responsabilité, reconnaît François Hollande. Mais je le dis ici, je ferai exactement la même chose. Je le dis aussi devant les parties civiles qui souffrent, parce que c'est la France, parce que nous le devons. Et de conclure, les plus grandes victimes du terrorisme islamiste sont des musulmans encore aujourd'hui.
Charlotte Piré en direct du Palais de Justice de Paris avec Jérémy Thuile. Dans le procès des sondages de l'Élysée, les audiences se sont terminées aujourd'hui par les plaidoiries de la défense. Décision du tribunal le 21 janvier prochain. Rappelons que le procureur a requis hier soir 1 an de prison dont 6 mois ferme à l'encontre de l'ancien secrétaire général de la présidence, Claude Guéant. Au procès du meurtre de Mireille Knoll, c'est aujourd'hui que le verdict doit tomber. Les jurés se sont retirés depuis ce matin 10h pour décider de la culpabilité des deux accusés pour lesquels le procureur a requis, lui, hier la perpétuité et 18 ans de réclusion criminelle. Au chapitre judiciaire encore, la jeune joggeuse de Mayenne retrouvée vivante hier soir en état de choc dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe après avoir disparu pendant 24 heures. La jeune fille de 17 ans donc a dit aux enquêteurs avoir échappé à ses ravisseurs. L'enquête des gendarmes se poursuit, on y revient dans le journal de 19h. Elle incarne la nouvelle génération de la Silicon Valley, plus sensible aux questions d'éthique. La lanceuse d'alerte américaine Frances Haugen, ancienne employée de Facebook, poursuivait aujourd'hui son tour d'Europe. Elle était cet après-midi devant les députés et les sénateurs français. Bonsoir Julien Baldacchino.
Bonsoir.
Vous avez suivi pour nous son audition, l'occasion pour elle de défendre le statut de lanceuse d'alerte et d'appeler à plus de transparence sur les réseaux sociaux.
Oui, l'opacité, c'est le cœur du problème selon Frances Haugen. Facebook ne dit pas comment les décisions sont prises en interne. Dans ces conditions, pas de confiance possible envers le réseau social.
Comment le public est-il censé croire Facebook s'ils n'ont pas de visibilité et aucun contexte sur la façon dont Facebook fonctionne réellement? Ceci doit changer.
La France n'est pas à l'écart des problèmes de modération des contenus sur Facebook. Jusqu'ici, la lanceuse d'alerte citait souvent l'exemple de la langue arabe qui n'est pas bien prise en charge par les modérateurs. Mais selon elle, la langue française est aussi très mal gérée.
Je peux vous garantir qu'il n'y a pas suffisamment de modérateurs francophones chez Facebook. Il n'y a pas assez de systèmes de sécurité en place en dehors de ceux en anglais.
Face à elle, les députés ont presque unanimement salué son courage. En ce moment, l'Assemblée étudie justement une proposition de loi sur le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte. Frances Haugen en a profité pour rappeler à quel point cela pouvait être difficile en interne.
Très souvent, lorsque les gens en interne sonnaient la sonnette d'alarme, ils étaient simplement virés.
Et elle a aussi appelé les députés à accorder la même protection aux facilitateurs, ce qui aide les lanceurs d'alerte dans leur démarche.
Julien Baldacchino, merci. L'audition de Frances Haugen à retrouver sur franceinter.fr. Une autre américaine est aussi de passage en France, Kamala Harris, la vice-présidente américaine qui doit rencontrer en ce moment même Emmanuel Macron. Une visite qui s'inscrit notamment dans le rapprochement consécutif entre les deux pays après l'affaire des sous-marins. Emmanuel Macron, dont l'allocution d'hier soir a été suivie par plus de 20 millions de téléspectateurs et qui a boosté les prises de rendez-vous pour la dose de rappel. 150 000 créneaux réservés hier sur la seule plateforme de Doctolib, dont 100 000 entre 20h et 21h. La troisième dose qui sera désormais obligatoire pour les plus de 65 ans s'ils veulent continuer à bénéficier du pass sanitaire. À l'étranger, c'est encore la crise migratoire entre la Pologne et la Biélorussie qui fait la une. Des milliers de migrants toujours massés aujourd'hui dans des campements de fortune en Biélorussie, près des barbelés avec la frontière polonaise. Les autorités polonaises qui ont arrêté 50 personnes qui tentaient de pénétrer sur leur territoire. Toute la journée, les déclarations se sont multipliées. La France qui accuse Minsk de trafic humain, la Pologne accusant la Biélorussie de terrorisme d'État. Mais au-delà de la situation entre les deux pays, d'autres nations sont aujourd'hui concernées par cette crise migratoire. Les Pays-Baltes, Nathanaël Charbonnier.
Si tous les regards sont fixés sur la Pologne, il ne faut pas oublier que la crise concerne aussi la Lituanie et la Lettonie. La Lituanie a même construit une clôture de 600 km le long de sa frontière avec la Biélorussie. En fait, c'est toute la frontière à l'est de l'Europe qui se retrouve prise au piège de ce flux migratoire organisé. Organisé car, selon un porte-parole de la Commission européenne, le président biélorusse Loukachenko serait totalement responsable de la crise. Organisé par la Biélorussie, avec la bénédiction des Russes, expliquent les Polonais qui doivent gérer, eux, la plus grosse arrivée de migrants. Quoi qu'il en soit, ce qui n'était qu'une crise régionale s'est transformé ce mercredi en crise internationale. La Russie a rejeté toute responsabilité dans le dossier. Angela Merkel pour l'Allemagne a demandé à Vladimir Poutine d'intervenir. La France, à travers le porte-parole du gouvernement, parle de trafic humain. Le président du Conseil européen accuse lui de terrorisme d'État la Biélorussie. L'ONU, enfin, a dénoncé une situation intolérable.
Nathanaël Charbonnier, la rédaction internationale de Radio France.
Quand la lutte contre les passoires thermiques vire au casse-tête.
Journée spéciale sur Inter aujourd'hui autour de la précarité énergétique. 12 millions de personnes sont concernées en France par des logements peu ou mal isolés. Au total, 4 800 000 logements à rénover et parmi eux, 250 000 logements sociaux à réhabiliter d'ici 2028. Pour cela, une enveloppe de l'État, 500 millions d'euros, insuffisante toutefois pour faire face à cet énorme chantier. Les bailleurs sociaux s'inquiètent de ne pas arriver à être dans les temps. Reportage de Claire Chaudière.
Pour planifier cette montée en charge vertigineuse des travaux, il a d'abord fallu cartographier, recenser secteur par secteur l'état du bâti, explique Sophie Chapoteau, responsable réhabilitation du bailleur social ICF Habitat.
Alors, si vous voulez que je vous identifie les plus énergivores, voilà, 2022, j'ai 1149 logements qui vont rentrer en chantier, qui sont en étiquette EFG, passoire thermique.
Plus de confort, allègement des factures de chauffage, le gain est important pour les locataires, mais le casse-tête pour tenir les délais, et bien là...
Les opérations sont de plus en plus complexes à monter, donc on peut facilement déraper. Faut pas traîner.
Car juridiquement, au-delà de 2025, les locataires de HLM classés G, les plus énergivores, donc pourront ne plus payer de loyer, un compte à rebours anticipé, certes, mais financièrement très tendu, avoue Jean-Luc Vidon, le directeur général de cet organisme HLM. Il manque, dit-il, un plan de soutien de l'État pour les 10 prochaines années.
Il va falloir des moyens financiers considérables par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, les bailleurs doivent mettre beaucoup de fonds propres. Les ponctions de ces dernières années ne nous ont pas aidés. Nous avons besoin d'un véritable accompagnement qui s'inscrive dans cette durée.
Sans quoi, prévient-il, rénover pourrait bien se faire au détriment de la construction de logements sociaux, elle aussi cruciale et qui patine malgré les objectifs fixés.
Claire Chaudière, ajoutons aussi cet appel aujourd'hui du médiateur national de l'énergie qui milite pour un droit d'accès minimal à l'électricité pour les foyers les plus précaires. L'électricité, un produit de première nécessité. Nécessité, selon lui, comme dit-il, le droit au logement, à l'eau ou encore le droit à l'ouverture d'un compte bancaire.
Allez, on termine avec des petits plats dans des grands bateaux.
Et même des grands plats, Fabienne Fini, les boîtes de sardines. La nouvelle tendance en vogue dans la course au large, c'est d'améliorer l'existant, d'améliorer la nourriture à bord. Exemple avec la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et la Martinique, commencée depuis 4 jours. Certains équipages se font plaisir et ont pris avant de partir des plats concoctés par de vrais grands chefs. Jérôme Val.
On va manger du pigeon de mesquière, on va manger de la joue de bœuf.
À bord de son multicoque de 50 pieds, Sébastien Rogue n'a pas l'intention de se priver pendant cette traversée océanique.
Des pâtes au pesto, mais qui sont incroyables. Même chez moi, je serais incapable de faire un dixième de ça.
Des plats préparés par un chef étoilé, Éric Guérin de la Mare aux Oiseaux, un établissement réputé installé près de Saint-Nazaire.
C'est des plats qui sont mis sous vide. Et qui sont ensuite stérilisés, donc qui permettent d'avoir une longue durée de conservation. Tout ce procédé permet à ce que la nourriture soit comestible jusqu'au bout.
Isabelle Yoshke, elle aussi, a fait le choix de petits plats mitonnés avec un mot d'ordre, se faire plaisir.
Pour moi, c'est vrai que c'est important de bien manger, de se faire plaisir, mais que ce soit sain et que ce soit nourrissant. C'est un vrai bonheur parce que du coup, je me dis, mais ça va être trop chouette. Dès le premier soir, je vais bien manger, du coup.
Son compère à bord de son monocoque, Fabien Delahaye, apprécie par avance ses petits moments à déguster ses plats.
C'est un côté où finalement quand on mange on se détache un petit peu de la marche du bateau, surtout en double. Les moments de repas et de repos sont des moments un peu à nous en dehors de la course.
Il est loin le temps des boîtes de conserve insipides. Désormais, il n'est plus question de sacrifier les petits plaisirs de la vie terrestre.
Mais évidemment, on est d'accord. Au chapitre sportif et non plus culinaire, Fabienne Levent a repris dans les voiles des ultimes, les plus gros bateaux de course qui ont renoué avec la vitesse et qui filent vers Madère alors qu'une bonne moitié de la flotte lutte encore face à l'absence de vent. En tête de la course, le duo Franck Camas-Charles Caudrelier avec une vitesse moyenne de 24 nœuds. 44 km/h, pas mal.
Voilà, écoutez, le mal de mer et la joue de bœuf, je me sens pas bien là, subitement, j'ai un vrai souci.
On n'est pas sûr d'avoir envie.
Merci beaucoup Sébastien, on se retrouve évidemment tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Et dans Sous les radars, vous nous parlerez notamment d'un mariage à Birmingham, on ne dit pas de qui. Ce soir, nous dialoguons avec le fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix qui commence demain, Justin Weiss. Et ce forum aura comme intervenante principale Kamala Harris, la vice-présidente américaine, mais évidemment pas seulement. En deuxième heure, à partir de 19h20, le téléphone sonne, je vous le remets dans l'oreille. Ce soir, on s'intéresse à ceux qui ne se chauffent pas chez eux parce que c'est trop cher, à ceux qui n'allument qu'un radiateur sur deux en comptant sur les couvertures dans la chambre pour avoir chaud, à ceux qui chauffent la rue, même tellement leurs logements sont des passoires énergétiques. La Fondation Abbé Pierre lance, et c'est la journée spéciale de France Inter aujourd'hui, la première journée contre la précarité énergétique. Comment y remédier? Est-ce que le chèque énergie permet au moins de rester un peu au chaud? Comment mieux aider à la rénovation des logements individuels et des bâtiments collectifs dont on parlait à l'instant? Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel en attendant.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Jean-Pierre Hameau, il a bien plu aujourd'hui sur la Corse.
Oui, Fabienne, depuis le début de l'épisode, nous avons relevé 175 mm à Fiumorbeau, sur la côte est de l'île, et 110 mm à Sonnenzara. Bonne nouvelle, la pluie va faire une pause ce soir et la nuit prochaine. D'ailleurs, nous avons sorti les deux départements corse de la vigilance orange à 18h. Cette pause sera temporaire. Demain, la pluie va reprendre du service dès le matin, toujours sur la partie orientale de l'île. Ces pluies vont se renforcer l'après-midi en prenant une nouvelle fois un caractère orageux. Prévoyez de la pluie aussi de la côte d'Azur au Roussillon, en passant par la basse vallée du Rhône. Le long des côtes de la Manche, le ciel sera nuageux et partout ailleurs, après une nuit claire, vous retrouverez une bonne tartine de grisaille. Le soleil devrait dissiper ces phénomènes de basse couche en cours de matinée, excepté dans les endroits habituels comme l'Est parisien, la plaine d'Alsace et le Val-de-Saône.
Quelques températures, Jean-Pierre, s'il vous plaît, pour la route.
Eh bien, pour la route, elles seront froides le matin dans le nord, le nord-est et le centre-est avec quelques gelées blanches. Et puis les maximales seront stationnaires. Prévoyez 8 à Metz, 10 à Paris, 11 à Dijon, comptez 13 à Lyon, 14 à Brest, 16 à Toulouse, 17 à Bordeaux. Et puis on ira jusqu'à 20 degrés à Marseille.
Jean-Pierre Hameau de Météo France. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À tout à l'heure, après 19h.